chanson, c'est pas quelque chose sur lequel je reviens 10 fois, par exemple. Chaque chanson est le fruit d'un c'est un moment, quoi. C'est un moment qui est capté et à partir duquel vont une idée sur laquelle je vais travailler qui va être concrétisée assez rapidement. Mais j'ai pas un rapport, doloriste ou compliqué à la création, en tout cas à la création de chansons. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Globalement, je suis très heureux déjà d'être parvenu à chaque fois à mener à bien un projet.
Le grand atelier.
Justement, pour moi, c'est le plus important, c'est de finir les choses.
Sur France Inter.
1992, l'ami Bernard Lenoir est l'un des premiers à repérer son talent, à diffuser ses chansons sur France Inter, des chansons de son premier disque, La Fossette. Depuis, cette voix, ses guitares, ses mélodies douces ou rock nous accompagnent. Bonjour Dominica.
Bonjour.
On entendait dans le générique, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je trouve ça bien. Mais oui, ça commence bien parce que c'est beau de pouvoir dire ça. D'ailleurs, ce que vous avez fait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous diriez?
Bon, j'ai fait principalement des chansons, tout simplement. J'ai travaillé sur ce rapport étrange entre des notes et des mots.
Et la fierté, c'est d'avoir pu écrire régulièrement, d'être encore là alors que vous avez démarré en 92?
C'est d'avoir du jus et d'être suivi, soutenu. Que ce soit par des gens avec qui je travaille des fois depuis longtemps, et par des gens qui m'écoutent depuis longtemps aussi. Donc, essayer d'avoir finalement maintenu une attention, maintenu un rapport, et avec la création, qui soit continu, constant, et un rapport avec les gens.
Sans la musique, vous réussiriez à vivre ?
C'est compliqué, hein, je pense pas vraiment. Enfin, toute ma vie s'est organisée autour de ça, donc ça serait quand même m'ôter au moins un bras. Je pense pas. Il y avait eu une BD qui avait été faite sur moi, enfin à partir de moi, j'ai envie de dire, qui s'appelait J'aurais ta peau, Dominica, d'Arnaud Le Gouefflec et Olivier Balèze. Et à un moment donné, il y avait une planche où il détaillait j'aurais pu être ceci, cela. Il me mettait dans des situations, dans des postures, avec des habits, correspondant à des professions. Et la planche se finissait, il disait mais je ne me suis pas donné d'autre choix que d'être chanteur. Et ça m'a vraiment à la fois tétanisé, puis j'ai trouvé ça hyper juste. J'ai tout fait pour pas être autre chose, en fait.
C'est vrai qu'enfant, à Provins, en Seine-et-Marne, vous grattez déjà, hein, vous écrivez des chansons.
Oui, c'était un truc classique, hein, c'est on s'ennuie, et puis en même temps, on découvre c'est un puits sans fond. C'est quelque chose qui s'ouvre et on va chercher des choses dedans et on se dit mais c'est pas possible, il y a tellement de choses à retirer de tout ça, tellement de mots, il y avait du dessin aussi à l'époque, tellement de choses à exprimer et on s'aperçoit que ça fait un bien fou, donc on continue.
Sauriez-vous me fredonner votre première chanson d'enfant?
Ah, ma première chanson, c'est compliqué. Je saurais vous fredonner une chanson que j'ai divulguée il y a quelques années qui figure sur une cassette qui s'appelait Agonie d'un soleil. Ce soir, c'est l'agonie d'un soleil. Ses rayons ne font maintenant plus que des étincelles qui se reflètent encore faiblement sur les flots. Et dans mon cœur, je n'ai plus chaud. Voilà.
Vous l'aimez toujours, cette chanson?
Bah, mélodiquement, c'est pas mal.
Il est fier de ses chansons.
Ah, je suis fier comme un coq.
Ma vie en morceaux va sortir chez Flammarion. Livre très intéressant dans lequel vous racontez à partir de certaines de vos chansons et vous dites que parfois les chansons sont plus importantes que la vie.
Alors c'est un peu une extrapolation, une exagération. C'est un peu pour retenir l'attention du lecteur aussi.
Ça marche, vous voyez.
Quand on fait des chansons, on est dans cette quête un peu obsessionnelle et un peu dérisoire. On est prêt à leur sacrifier beaucoup de choses. Il faut savoir jusqu'à quel point on est prêt à aller justement pour elles. Et par moments, j'ai eu l'impression que, oui, tout simplement, elle devenait plus importante que moi. Ce qui est complètement crétin, en fait, hein, parce que c'est pas vrai. Mais la sensation, le ressenti est là.
Le courage des oiseaux, vous lui consacrez un chapitre dans ce livre. Vous êtes aussi très amis de cette chanson. Elle est toujours avec vous dans vos bagages, dans vos concerts. Vous aimez réinventer à chaque fois, à chaque scène.
Oui, oui. Mais en fait, c'est un jeu avec cette chanson perpétuelle. En fait, jusqu'à ce que mort s'en suive, je ferai en sorte de proposer des versions différentes de cette chanson, qui est mon gris-gris, qui est celle qui m'a permis d'accéder jusqu'à vous.
Premier tube.
Oui, enfin, c'est pas un tube dans mon parcours, c'est la chanson, la pierre de touche. Il y a une espèce de jubilation à essayer à chaque fois de la réinventer alors qu'elle repose sur 4 pauvres accords. Elle est très malléable.
Elle se prête au déguisement, hein.
Ouais, tout à fait. Il y a des chansons qui se prêtent pas du tout, qui sont un peu figées dans leur version disque et j'arrive pas à en sortir. Mais celle-ci, elle est de bonne composition.
La première fois que vous l'interprétez, c'était à quelle date?
C'était le 17 janvier 1991.
Et que se passait-il ce soir-là?
Eh ben, c'était la guerre du Golfe, en fait. Hein. C'était les Américains qui interviennent au Koweït, contre l'Irak.
Et on chante comment? On est dans quel état, à ce moment-là?
Bah, le souvenir que j'en ai, c'était une soirée, en fait, organisée par un professeur des Beaux-Arts de Nantes. Donc, avec plein d'étudiants des Beaux-Arts. J'avais 15 minutes devant moi. C'était la première fois que je chantais ce morceau. Et il y avait quelque chose de très, très, j'en parle dans le bouquin, de très électrique, en fait. Parce qu'il y avait comme un climat d'avant-guerre, j'ai envie de dire. On se faisait un petit peu peur. Et on était très inquiets de ce qui allait advenir, en fait. Dans quelle mesure ça allait avoir des répercussions directes sur nos vies. On a l'impression que la Troisième Guerre mondiale était enclenchée, en fait.
Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien, voir un jour les raisons d'aimer, perdues quelque part dans le temps, mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Quelle version? Cette version qu'on vient d'écouter, Dominique.
La foule est en liesse.
La foule est en liesse. Les femmes jettent leurs culottes, comme à Gérard Philippe dans les années 50. Hein.
Ça ne m'est pas arrivé souvent. C'est une version de 2007, oui. Sur un disque live qui s'appelait Sur nos forces motrices. Et c'est donc un groupe de jeunes gens qui m'accompagnaient. Il y avait Daniel Pabeuf, David Vert, Jérôme Bensoussan, Olivier Mélano.
On va vous entendre chanter dans votre grand atelier. On va recevoir des personnes que vous avez envie de rencontrer. Ouais. Il y aura un écrivain, il y aura un photographe, un dessinateur, un plasticien et bien d'autres personnes qui seront là. Puis on va aussi aller tout de suite chez vous, si vous le voulez bien, parce que vous avez eu la gentillesse de me recevoir il y a quelques jours à Nantes. On est monté tout là-haut dans votre maison, on a vu vos carnets, vos guitares, vos claviers, c'est là que vous écrivez, c'est là que vous composez. On a pris le bateau aussi, oui, pour arriver jusqu'à chez vous.
Où est-ce qu'on est?
Là, on est sur le Navibus. Donc, il traverse la Loire, qui rejoint le Grand Nord, en élargissant un petit peu de Nantes avec le Sud-Loire.
Vous êtes un petit peu excentré de Nantes.
Ouais, oui, mais bon, très légèrement, parce que bon, en 20 minutes, je suis dans le centre.
Et retrouver Nantes, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait pas longtemps que vous étiez en Belgique, à Bruxelles.
En fait, bizarrement, ça n'était pas une évidence. Et puis ça l'est devenu. Et puis c'est vrai que ce que j'ai toujours aimé à Nantes, c'est une ville qui est vraiment traversée par l'eau, évidemment par la Loire, et puis par l'Erdre, par la Sèvre. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup séduit. Et dont j'ai eu vraiment de plus en plus le besoin, en fait. En tout cas, j'ai pas la sensation d'être revenu par nostalgie. Je pense pas être quelqu'un de fondamentalement nostalgique.
On va aller dans votre atelier d'une certaine manière ?
Tout à fait, oui. C'est mon lieu de travail de prédilection. C'est en haut, sous les toits de la maison où j'habite. C'est une pièce qui tient à la fois de la chambre d'amis, de la bibliothèque et du studio d'enregistrement. En fait, il y a tout dans cette pièce. Une belle prison.
Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde. Que le soleil inonde de ses reflets dorés.
C'est rigolo parce que, alors ça c'est un truc... C'est un trait. Quand tu passes la Loire, tu tombes sur les tuiles rouges. C'est-à-dire tu arrives dans le sud.
C'est marrant. On est dans votre studio là et effectivement, on pourrait se croire à Avignon avec des toits en tuiles rouges.
On passe de l'ardoise à la tuile rouge, ouais. Ouais. C'est marrant.
Qu'est-ce qu'on voit de vos fenêtres?
Alors, de mes fenêtres, on voit la Loire.
Oui, elle est là.
Elle est là, avec vous voyez, un bateau qui passe là. On voit des arbres aussi, qui font les sentinelles face à la Loire. Et on voit au loin la ville avec. La tour de Bretagne, notamment, ce superbe monument qui évoque vaguement la tour Montparnasse.
Et en même temps, vous êtes sous les toits, donc assez isolé dans un cocon. Je pense que pour travailler, c'est pas mal.
Tout à fait. Alors, c'est toujours une appréhension. Quand j'arrive dans un nouveau lieu, je me dis, est-ce que je vais être bien là pour écrire, pour faire la musique? Est-ce que l'endroit ne va pas me rejeter? Puis non, j'ai de la chance. Cet endroit m'a accueilli les bras grands ouverts.
Quand on est auteur, compositeur, interprète, on peut écrire n'importe où. Ça peut démarrer sur un carnet dans un café, ouais, après avoir bu un coup. Vous dites d'ailleurs que quelquefois l'alcool aide. Mais pour faire de la musique, il faut vraiment avoir son lieu.
Ouais, je crois que c'est important, ouais, d'avoir un rendez-vous dans un cadre où, au bout d'un moment, on fait abstraction du cadre. Et puis surtout, enfin, ce que j'ai toujours aimé, c'est le fait de... Là, par exemple, on est dans une pièce qui doit faire, je sais pas, 20 mètres carrés à tout casser. Hein. Mais je n'utilise pour la musique que 6 mètres carrés. J'ai toujours eu cette prédilection pour ramasser un petit peu l'espace. Pour faire des prises de son, c'est pas toujours facile.
C'est vrai que c'est petit, c'est étroit et c'est mansardé. Donc,
Ce qui fait, finalement, par rapport à la tonalité des chansons, qui sont un peu plus intimistes que sur le précédent, une forme dans l'interprétation de laisser aller. Enfin, moi, je le sens. Surtout le fait de se faire assez confiance pour privilégier vraiment des prises qui ne sont pas retouchées. La voix part et le chant finit et vous ne retouchez pas au chant. Et c'est une première prise, c'est-à-dire que c'est la première intention que vous donnez au morceau.
Sur le disque, si j'écoute La Fragilité, quelle est la chanson qui a vécu miraculeusement tout de suite?
Alors, je pense à une chanson qui s'appelle Comme au jour premier, qui est la quatrième sur l'album, et j'ai trouvé la ligne d'accord qui est très simple, la mélodie, et j'ai allumé l'appareil, j'ai installé le micro, et tout s'est fait dans l'heure, quoi.
Dans l'air immobile d'un été parfait, tu avancerais, te sentant porté par toutes les saisons qui t'ont précédé et toutes celles qui te succéderaient.
Donc c'est vrai qu'après, c'est des moments...
De grâce?
Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais...
Parce que ça arrive pas tous les jours.
Non, ça arrive pas tous les jours. C'est des moments... mes premiers enregistrements, c'était ça. Quand j'ai commencé, à ceci près que je ne savais pas qu'ils étaient destinés aux gens. J'avais du matériel à la maison, c'était un peu le même fonctionnement.
Si oui, j'y pense.
Oui.
Il y a peu de choses qui ont changé finalement dans votre façon de travailler.
Oui, je crois qu'il y a une permanence en fait.
La fossette, elle se fait chez vous, hein, 92.
Ouais.
Je regarde un peu autour de vous,
Il y a quand même pas mal de guitares. Hein.
Mais pas tant que ça, hein. Parce que
j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, il en manque 2 qui m'attendent dans un studio à Paris pour repartir en tournée. Là, il y a une guitare acoustique qui va partir en tournée.
On peut entendre le son ?
Oui, si vous voulez.
Beaucoup de chansons de Dominica naissent sur cette guitare.
Ouais, en l'occurrence, là, sur l'album qui vient, là, c'était pas cette guitare en particulier, c'est plus une guitare qui est plus dans le coin, alors je sais même plus où elle est. Ah non, elle est un étage plus bas. Mais qui est une guitare qui sonne finalement moins bien que celle-ci. C'est-à-dire que bizarrement, j'ai commencé à enregistrer l'album sur une, en utilisant une guitare que j'avais sur l'album La Mémoire Neuve, donc qui nous renvoie 23 ans en arrière. Donc j'avais même pas changé les cordes, et j'ai commencé à enregistrer sur cette guitare, mais ce que j'avais enregistré me plaisait, et je me suis dit, bah, je vais continuer sur cette guitare, puisque j'ai l'impression qu'elle m'inspire. Et en fait, je crois que ça participe au son du disque, justement, ça évite peut-être une forme de joliesse additionnelle, superflue en fait.
La poésie, ça peut chanter avec cette guitare ?
Ah oui, tout à fait. La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De t'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée. Puis elle s'en est allée.
C'est beau cette idée que la poésie arrive chez soi, puis s'envole, que ouais, la poésie puisse être un oiseau libre.
Ouais, alors vraiment, c'est vraiment bon. Alors
Ça, c'est né ici ?
C'est né précisément le lit qui est derrière, sur le lit. C'était 2 jours après la mort de Leonard Cohen. Où vraiment, bon, bah, rarement je suis touché par la mort des gens connus. En général, ça me fait ni chaud ni froid. Et là, ça m'a vraiment. Le lendemain, en plus, il y avait l'élection de Trump. Donc ça faisait beaucoup pour une même semaine.
Des scènes de liesse à la hauteur de l'énorme surprise. Donald Trump vient d'être élu 45e président de l'histoire des États-Unis.
Et le surlendemain, donc le 9 novembre, je suis monté dans cette chambre, puis je me suis dit, oui, c'est comme s'il incarnait la poésie, en quelque sorte, et que lui parti, que la poésie s'en allait. Et en fait, pour moi, dans la chanson, quand je parle de s'être allongé dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit, mais j'étais là.
Ah, on y est.
On y est. C'est-à-dire, j'imaginais Leonard Cohen allongé sur mon lit, en écoutant la pluie tomber sur, sur l'ardoise.
C'est quand même un sacré acte que d'écrire une chanson. Pas une responsabilité, faut pas exagérer, mais quand même, vous allez devoir vivre avec elle et ne pas forcément l'abandonner.
Et c'est un compagnonnage, bien sûr, hein. C'est ça qui est génial, c'est cette idée-là, justement, que ce qui a été un moment, il y a un parcours possible. Et il y a des chansons, on le sait tout de suite.
On pense au Courage des oiseaux, que vous habillez toujours différemment. Là, justement, le peintre Dominica, il s'autorise des couleurs différentes, des arrangements différents. Je l'ai beaucoup entendu en concert, comme tous ceux qui vous suivent, et j'ai jamais entendu la même version.
C'est devenu un jeu. Quelle va être la version? Puis j'ai trouvé une version. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une chanson vaguement technopop, avec 4 accords en boucle, 4 accords un petit peu usés jusqu'à la corde, qui sont, je sais même plus les accords, mais. Donc, comment renouveler? Et puis ça vient assez facilement.
Dans votre chambre, studio, atelier, et cette partie, effectivement, de 2 mètres sur 2, il y a une chose intéressante, là.
Hein,
c'est un carnet blanc, mais rempli.
Oui, alors ça, c'est un texte que j'ai écrit il y a peu de temps, qui s'appelle « Nourrir le monstre ». Ça parle des GAFA.
Il y a peu de ratures, hein.
Assez peu.
On peut en lire ou pas?
Si vous voulez, hein.
J'arrive pas à vous lire.
Non, mais c'est sûr. Alors, au rythme, le danseur se soumet, au rythme, l'oreille obéit, il n'y a pas de mais, pas d'écart admis. Et c'est la voie tracée pour nourrir le monstre. Image et son ligué pour nourrir le monstre.
Ça va appeler de l'acoustique ou du rock?
L'acoustique. La musique est pas encore bouclée, donc vous ne m'aurez pas. mais j'ai ma petite idée, ouais.
Quand on a 25 ans de scène à peu près, quand on écrit une chanson comme celle-là, là dans le petit carnet et qui déjà est mise en musique ou en train de l'être, est-ce qu'on pense à la scène tout de suite ou ça vient plus tard?
Là, j'y pense parce que je me fais, non pas la promesse, mais j'aimerais justement que cette tournée solo soit un point d'orgue dans ma vie artistique pour faire un petit break. C'est un rendez-vous que je me donne et c'est l'idée justement de pas attendre. Parce que je pourrais être tenté de me dire, tiens, ce morceau, ce texte-là, je vais le garder sous le coude pour le prochain disque. Mais en le divulguant déjà, c'est un petit peu lui couper l'herbe sous le pied et faire en sorte que ce ne soit pas là comme un premier pas vers un prochain disque. Justement, j'aimerais finir la tournée avec zéro idée, zéro texte dans les pattes et un grand vide pour avoir le temps justement de le remplir, mais très progressivement.
Vous allez vous arrêter combien de temps?
Je ne sais pas, idéalement, j'aimerais m'arrêter 2 ans, 2-3 ans. Mais qu'est-ce que je vais faire, je sais pas.
C'est quoi là-haut, posé sur les livres?
Ah oui, ça c'est la victoire. Vous savez, un œil de lynx, c'est la victoire de la musique.
J'en avais jamais vu.
Ah ben, vous voulez la soupeser?
Oui. Ah.
C'est lourd, hein?
Oui, très. C'est pour ça que tout le monde dit « Ah, oh, je ne savais pas que c'était si lourd quand, quand ils reçoivent les victoires ou les Césars. Eh » oui. 2013, Vers les lueurs.
Ouais.
Artiste de l'année?
Ouais. Ouais, oui, c'était un moment fort pour moi.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau, et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché.
Merci beaucoup. Dominique A, rendez-nous la lumière.
Je n'ai pas gagné beaucoup de coupes dans ma vie. Ouais, j'ai remporté celle-là. Et avec cette vanité, cette année-là, j'avais vraiment très envie de gagner cette coupe. Je n'ai pas à me plaindre. Je trouve que les choses se passent bien pour moi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je sentais que si ça devait arriver, c'était à ce moment-là. Que après, ça serait trop tard.
Ça n'a rien changé dans votre vie?
Ou si. Psychologiquement, si, un peu quand même.
Ça donne de la confiance?
Oui, si, non, je n'ai pas pris les choses légèrement. J'étais un peu assommé par ce que ça représente, en fait. Je veux dire, on sait très bien que tout ça est ridicule et dérisoire, hein, mais tout l'est à ce moment-là. Donc, pourquoi ça serait plus dérisoire qu'autre chose? Donc,
Je vous laisse le reposer, oui. La reposer.
Ah non, mais je vais le garder dans mes bras.
Vous dormez toujours avec.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et penser qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté. Ôter le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, où le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains. Ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Dominica, retour en studio avec vous dans votre grand atelier. On entendait cette évocation d'une, non pas d'une pré-retraite, vous en êtes loin, mais d'une volonté de faire un break. Ça m'interroge un peu, je n'arrive pas à savoir exactement pourquoi et surtout ce que vous voulez faire de ce temps libre que vous allez vous accorder, en sachant que la source n'est pas tarie chez vous et que le flux est toujours là.
Alors il faut savoir que je dis ça à chaque fois, hein, déjà. J'aimerais avoir ce courage de... Alors, c'est un peu gonflé de dire ça alors que je sors un bouquin, un disque et que je vais être sur les routes pendant 6 mois. Mais après ce grand déballage, il y a 2 disques cette année. Il y a eu quand même, il y a pas mal quand même d'activités et de choses qui sont proposées. J'aimerais avoir la force de me tenir un petit peu éloigné des projecteurs et puis de travailler, faire un travail au long cours sur un prochain disque ou... Puis vivre autre chose, en fait. Prendre du temps pour voyager... Alors, est-ce que j'en aurai la force? Parce que je sais que j'ai du mal à temporiser et à procrastiner, en fait. Oui. Et je sais pas dans quelle mesure je suis capable de m'arrêter un tout petit peu.
Vous avez envie de vous tester, en fait?
Ouais, d'essayer de rentrer dans un rythme de vie un petit peu différent. C'était aussi l'objet finalement de proposer 2 disques, de proposer autant de choses. C'était de me dire, suite à ça, il faudra recréer du désir chez les gens. Et le désir, en moi, il est là. Mais j'ai l'impression que il y a des choses artistiquement auxquelles j'ai pas encore accédé qui nécessiteraient que je travaille vraiment dans mon coin un temps substantiel, quoi.
Ce temps que vous vous accorderiez permettrait de faire quel genre de disque ou quel genre de projet?
J'ai un absolu en musique qui est un disque d'un groupe anglais à la base des années 80 qui s'appelait Tok Tok. Et qui a commis un espèce d'un, bon, qui était très connu avec des chansons comme Such a Shame ou It's My Life. Et puis, ils ont cassé le jouet à la fin des années 80 et ils ont proposé des disques qui étaient beaucoup plus atmosphériques, où il y avait plus que 6 pièces musicales, avec des chansons très déconstruites, très mélodiques toujours, mais avec vraiment de l'espace, du silence, une conception un peu, mais très ambitieuse de la chanson, en fait. Et leur dernier album s'appelle Laughing Stock, il est sorti en 91. Suite à ce disque, le chanteur Marc Hollis a fait un album quelques années plus tard, solo, et depuis c'est le silence le plus total. Et c'est un disque, moi, qui me fascine depuis des décennies, parce que il y a une forme d'évidence, et puis en même temps, c'est une recherche perpétuelle. On sent le temps qui a été pris pour faire ça, parce qu'on peut, c'est pas une musique qu'on peut écrire, c'est pas une musique qu'on peut concevoir, il faut la faire. Et pour la faire, il faut le temps que des choses se mettent en place et que des accidents se multiplient. Et utiliser ces accidents, et ça demande du temps, tout simplement. Et pour moi, c'est un absolu artistique, ce disque. Alors, je prétends pas qu'un jour je pourrais me mesurer à ça, mais j'aimerais aller sur ce terrain-là, essayer d'avoir cette ambition. Alors, le seul problème, c'est que je crois que Marcolis est un peu fou. Et moi, je me sens tout à fait sain d'esprit, donc peut-être que je...
Manquais de folie.
Je manque de folie. Mais en tout cas, c'est là. C'est là depuis toujours, en fait. Parce que, en fait, finalement, quand j'ai sorti mon premier disque, j'étais déjà fou de ce disque. Et ça continue. C'est pas un disque que j'écoute tout le temps, hein, mais il est là. Il est là. Il fait partie des disques. Il faut me dire, mais c'est ça. C'est ouais, ça qu'il faut bien que atteindre.
C'est le moment d'entrer dans votre laboratoire d'une certaine manière.
Ouais, hein. Mais avec oui, il y a un risque de finalement de faire machine arrière, de se planter, parce que je me dirais, bah non, je suis fait pour justement faire des chansons beaucoup plus classiques. Là, c'est ce que je propose. Là, je sors un disque où les chansons sont vraiment très, c'est dans un registre très classique,
ouais, moins rock que celui de Mars.
Et c'est très assumé, et j'avais envie de pousser ça jusqu'au bout. Et pour moi, c'est presque finalement une façon de clore un petit chapitre. Alors, tout ça, ça peut paraître un discours un peu prémâché, mais j'ai l'impression de penser vraiment ce que je dis.
Non, il y a des accents de sincérité, Dominique, ouais, dans ce que vous dites. Comme dans Ma vie en morceaux, d'ailleurs, mmh, où vous racontez aussi le jeune Dominique qui a quitté Provins puisque son père, professeur, a été nommé à Nantes et qui arrive dans la banlieue de Nantes à 15 ans. Qui met du temps, d'ailleurs, à aimer Nantes. Vous dites que c'est une ville qu'il faut découvrir, qu'il ne se laisse pas aimer tout de suite.
Surtout à l'époque, enfin, on était, j'ai vécu beaucoup dans des villes de droite, moi. C'était le maire s'appelait Michel Chauty à l'époque à Nantes. Ouais. Et je pense qu'il aimait pas trop les musiques amplifiées. Et il se faisait un devoir finalement de couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui essayaient de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc Nantes était une ville qui était un peu où il y avait une profusion de musique et de groupes. Quand je suis arrivé, c'était vraiment très impressionnant. Moi qui venais d'une petite ville de Seine-et-Marne. Et en même temps, on avait l'impression qu'il y avait pas grand-chose pour permettre à tous ces groupes, tous ces gens de s'exprimer. Et Nantes s'est réveillée après. Et la ville a changé. Et aujourd'hui, à cette image, bon, il y a ils ont des très bons communicants à Nantes. Donc, des fois, c'est un petit peu exagéré, je trouve. Mais c'est vrai que la ville a énormément changé. Il y avait une atmosphère, en tout cas, un petit peu très, très provinciale, assez fermée quand je suis arrivé. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à m'acclimater à cette ville.
Vous rencontrez pas mal de jeunes musiciens comme vous qui commencent à travailler. Il y a un garçon qui s'appelle Philippe Catherine.
Oui. Alors Philippe, on s'est rencontré au début des années 90. Son beau-frère organisait un concert au pied d'un des châteaux de Barbe Noire en Vendée, Pouzauges, le château de Pouzauges. Et j'avais été ramené en contrebande par un groupe d'amis qui faisait un concert. Il dit, ouais, il y a un gars qui fait de la musique tout seul, ça serait bien qu'il fasse la première partie. Alors le beau-frère de Philippe, il lui dit, oui, bon, allez, ok, pourquoi pas. J'avais fait un tabac d'ailleurs ce soir-là.
Ah bon?
J'avais éclipsé tout le monde.
Et entre vous, ça marche tout de suite?
J'ai pas de souvenir de la première poignée de main où, alors lui, il se souvient très bien m'avoir servi une bière. Je me suis dit, ça commence sous les meilleurs auspices quand on est.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, on écoutait un peu les mêmes genres de musique, la musique des groupes anglais indépendants de la fin des années 80. On était un petit peu des vieux garçons, un peu inadaptés. Et on travaillait tous les deux avec des quatre pistes à cassette, donc des premiers home studio. Avec cette obsession de ne pas se fourvoyer dans un studio d'enregistrement et de proposer à un public potentiel ou éventuel les enregistrements les plus bruts qui soient. Et c'était à la fois l'héritage du punk, le do-it-yourself, et puis en même temps, ce qu'on a appelé la lo-fi après, les prémices de la lo-fi, c'est-à-dire par opposition à hi-fi, vraiment les sons les plus cheap et les plus minimaux.
Et vous avez enregistré ensemble?
Ouais, on avait fait un petit duo. J'avais été chez lui, il vivait encore chez ses parents, moi aussi d'ailleurs, qui s'appelait Les Lindas. Et on avait enregistré trois morceaux.
Il y avait une chanson qui s'intitulait Le vent nous porte où il veut.
Le vent nous porte où il veut. Le vent nous porte où il veut. Loin des maisons, loin de ce que nous aimons, porte où il veut. Le vent nous porte où il veut, loin des maisons, loin de ceux que nous aimons. On ne poisson accroché à son son. Nous sommes au bout des cannes à pêche, au bout des perches, que le vent emballoté au gré du vent, consentant ou mécontent. Déposé loin des maisons, jusqu'au palier des maisons.
Ça vous fait sourire?
Bah ouais, mais je trouve ça attendrissant.
C'est attendrissant. Vous avez des voix d'enfant?
Mais carrément, mais on était vraiment...
Quel âge
vraiment,
là pff,
bah je sais pas, on avait 23 ans, 22 ans. Mmh. Mais on n'était pas finis, hein. Mais c'est chouette en même temps.
Ça vous ressemble, non?
C'était ma chanson,
c'est
ça.
Du Dominica, ça.
Mais avec des harmonies à la Catherine derrière.
Oui.
Non, mais ça, c'est un rapport qui est fort, puisque finalement, c'est, j'en parle un peu dans le livre, hein. On est toujours là déjà, tous les deux.
Alors que vos univers se sont éloignés.
Oui, oui.
Vous êtes allé vers la fantaisie et vous, ouais, vers une certaine âpreté.
Oui, carrément. Mais on se suit toujours et on se voit toujours. Il y a un vrai parallélisme dans le parcours, c'est-à-dire qu'on a connu des ruptures personnelles et artistiques un peu au même moment. Et en même temps, on a pris des chemins, oui, très 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 différents, et en même temps, tout en se retrouvant toujours sur des tas de choses. J'ai l'impression qu'on est codépendants, en fait, dans notre évolution.
Vous êtes même retrouvé un jour sur une compilation des Inrecuptibles, journal, pour dire que vous vous manquiez.
Oui.
Et je trouve ça aussi très joli, cette façon de dire à l'autre, faisons-nous signe.
Ouais, manque-moi moins, ça s'appelle.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît, je voudrais que tu me manques moins.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît, je voudrais que tu me manques moins.
Si tu le veux bien, Philippe, voyons-nous plus souvent avec Pierre, Éric et Gaëtan. Soyons tendres et stupides.
La ville est une outre pleine de climax alléchants. Pierre, Éric et Gaëtan, comme je vous aime.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît, je voudrais que tu me manques moins.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît, je voudrais que tu me manques moins.
Séjour chez toi en juillet, ton regard inquiétant au bord du lit, penché sur moi, j'avais peur, et pourtant,
pourtant, Minique, je n'aurais rien fait de déplacé. C'était le lit de ma fille.
Ouais, faut pas pousser.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît.
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 S'il te plaît. Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît.
Je voudrais que tu me manques moins.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît.
Je voudrais. Que tu me manques moins.
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît.
Je voudrais.
Un journaliste est avec nous, l'auteur du Tour de France des villes incomprises, paru aux éditions du Trésor. Bonjour Vincent Noyoux.
Bonjour.
Vous vous êtes baladé dans des villes où l'on ne va pas en priorité.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge.
Voilà, vous l'avez compris, Vincent Noyou n'est pas allé à Naples ou à Prague, mais à Vesoul, Dominica, à Maubeuge, à Cergy-Pontoise.
Ça m'arrive aussi.
Ça vous arrive, vous en tournez à Guéret. Et vous avez aimé ce livre, vous avez aimé ces récits de villes qui, a priori, n'attirent pas les touristes?
Oui, alors c'est un livre que j'ai lu il y a très peu de temps. En fait, c'est un bon ami qui me l'a offert et j'ai commencé à le lire sur le sable. Et puis à me dire, mais c'est vraiment bien, j'aime beaucoup le propos, l'idée de dire, voilà, et si, d'une certaine façon, alors tout de suite vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, mais et si l'exotisme, en fait, c'était ça aussi, c'était de ne pas aller forcément à l'autre bout du monde pour découvrir des endroits qui sont mal aimés, qui souffrent d'une réputation que les chansons leur ont faite, par exemple, comme les extraits que vous avez passés. Et surtout, moi, ça me touche beaucoup, Vincent a une narre très bien ses petits périples dans les villes qu'il visite. Et surtout, moi, ça me touche beaucoup parce que, en tant que musicien de tournée, c'est des choses que je vois aussi. Alors, je suis plus de passage. En général, je reste une journée. Mais il m'arrive de partir un petit peu en douce, de quitter un peu le groupe et de me balader dans les rues et de capter quelques ambiances. Et je trouve qu'il y a beaucoup à voir et il y a beaucoup à apprendre, justement, de la fréquentation de lieux qui sont mal aimés et qui souffrent d'une réputation...
Injustifié.
Après, effectivement, quand vous allez dans l'est de la France, dans ce décor qui pourrait être post-apocalyptique, ben il y a des beautés à trouver et il y a des gens à rencontrer.
Et c'est ça, il y a pas mal de rencontres. Hein. Vous faites pas mal de rencontres, Vincent Noyou, et on a l'impression que les humains peuvent sauver parfois une ville qui a mauvaise réputation et l'animer par leur présence, par leur amour aussi de la ville.
Oui, c'est vrai. C'est ce qui sauve ces lieux qui sont pas toujours très séduisants, pas du tout même. Quand on arrive à Vesoul par un petit matin du mois de janvier...
On a envie de rester dans sa chambre d'hôtel.
Exactement, il pleut et c'est marrant parce que j'étais dans cette chambre d'hôtel et sur les livres d'or, il y avait un mot de mieux sec.
Oui, vous le racontez dans le
Merci livre. Pour le Chablis.
Et alors du coup, vous vous forcez à descendre de votre chambre d'hôtel.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous voyez?
Ce qu'on voit, c'est d'abord un décor pas très riant. Il y a pas mal de rideaux baissés dans ces sous-préfectures, des centres-villes un peu à l'abandon. Mais on se met un petit peu à l'échelle du lieu et on change son regard en fait sur le lieu. Et on finit par être séduit par une ambiance, effectivement, qui peut paraître triste au premier abord, mais qui finit par avoir un petit côté parfois poisseux. Je pensais au port de Saint-Nazaire, où il y avait une ambiance de polar poisseux, etc. Au bout de 24 heures, on est très vite dans ce type d'ambiance presque romanesque. Et en Lorraine aussi, c'est le cas. C'est au fourneau à l'abandon. Moi, ça m'évoquait des cathédrales d'acier et une ambiance quasi fantastique. Quand on y passe très vite... On le voit pas, on voit juste le côté sinistre de ces lieux. Mais en y restant, en s'imprégnant, le regard change. Et en parlant aux gens, là, effectivement, ça change tout. C'est plus le côté attachant qui arrive parce que des gens habitent dans des lieux qu'on veut fuir, que tous les touristes fuient. Ils y habitent et je sais pas s'ils les aiment forcément. Un ancien ouvrier continue tous les jours à entretenir son petit jardin, son petit potager. C'est pas la France des grandes villes, mais c'est pas la France riante des campagnes, des plus beaux villages de France. C'est la France au milieu de tout ça.
Et c'est une France que souvent on ne veut pas voir. Et quand on rencontre les gens, il y a des destins incroyables.
Vincent Noyou ?
Oui, on parlait un petit peu avant l'émission de ces petites villes souvent oubliées, y compris par les tournées. Et moi, je me demandais quel regard vous portez en fait sur ces sous-préfectures, ces villes de garnison, ces ports industriels, etc.
Quand j'ai commencé à tourner, j'avais un regard un peu dédaigneux sur tout ça. Je disais, moi, sorti des grandes villes, je disais, qu'est-ce qu'on va foutre à jouer à tel endroit, dans tel bled. Je ne voyais pas bien, ou même souvent en banlieue parisienne.
Dans le bouquin, il y a Cergy-Pontoise,
voilà,
entre autres.
Ouais, et je ne comprenais pas. Je parlais au tourneur, je disais, mais pourquoi on va jouer là-bas? Quel intérêt, etc. Et de plus en plus, c'est en fait ce qui fait le sel d'une tournée pour moi, c'est d'aller dans ces lieux-là.
Pas forcément vous avez le temps de rencontrer des gens, de parler, de sortir de votre préparation du concert?
Pas comme Vincent Noyou, mais non. Mais on a le temps de s'imprégner d'une ambiance et surtout, on est là pour jouer pour un public qui, des fois, c'est des gens qui ont l'habitude de sortir. Et on a l'impression, là, dans ces cas-là, j'ai l'impression aussi d'appuyer le travail des gens qui, dans des lieux culturels, font vivre la ville, etc. Et essayent justement de dynamiser, ils font pas qu'essayer d'ailleurs, la plupart du temps ils y parviennent, dynamiser une ville. Et pour moi, ça fait partie d'une forme de responsabilité, j'ai envie de dire, de l'artiste, d'aller justement le plus possible dans des endroits où, qui sont un peu négligés.
Un sans noyau.
Vous me disiez que ça avait quasiment plus de sens de, d'aller à jouer à Vesoul-Aversion qu'à Bordeaux, Toulouse, où il y a déjà une offre culturelle énorme.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais on parlait de, vous parliez de Miossec, lui, sa tournée précédente, il a vraiment eu justement cette démarche d'aller là où on ne va pas. Et dans la mesure où il y avait des structures assez solides pour accueillir un groupe de musique avec une sono et un peu d'argent et de la technique, il l'a fait en plus sans le spécialement le médiatiser, sans jouer là-dessus, mais ils ont, je crois, il a fait un truc comme 300 concerts. Et c'est rigolo parce qu'enfin là, il sort un disque et je trouve qu'on entend dans son disque cette expérience qu'il a vécue. Je vais le rencontrer bientôt et j'aurai l'occasion d'en parler avec lui.
Vincent Noyau, qu'est-ce qui vous amène à Maubeuge et qu'est-ce que vous retenez de Maubeuge? Je précise que c'est dans le Nord pour ceux qui ne le savent pas.
Oui, ce qui m'amène à Maubeuge, bah, c'est le clair de lune, c'est cette chanson
qu'on a écoutée là.
Voilà,
on a écouté un extrait.
Un peu ironique, complètement ironique même. Pourquoi est-ce qu'on ira à Maubeuge pour un clair de lune comme s'il était plus beau là-bas que qu'ailleurs. Je cherchais une ville du Nord en fait qui n'ait pas les atouts de Lille, qui n'ait pas ce beau patrimoine, qui n'ait même pas la poésie des terrils, des corons, etc. Je voulais vraiment une ville dépouillée de tout ça. Et j'ai trouvé Maubeuge, qui est une ville pas très riante, c'est vrai, et assez tristoune hein, quand on arrive là-bas. C'est, là encore, l'idée, c'était d'arpenter les rues, de s'attacher à des petits détails architecturaux, de faire des rencontres. J'ai rencontré là-bas un boucher halal qui était passionné par les forteresses Vauban. Il y a des forteresses Vauban là-bas à Maubeuge. Et il m'a parlé de sa ville et de son coup de cœur pour cette architecture militaire. Et tout de suite, voilà, le lieu prend une autre ampleur quand on fait ce type de rencontre. On n'est plus dans un bled perdu du nord de la France. On est dans un lieu qui veut dire quelque chose pour les gens qui y habitent. Et puis, voilà, il y a la Vénois qui est une très jolie campagne à côté. Il y a la Belgique avec des ambiances à la Simenon. Voilà, au bout de 48 heures, on a déjà amassé une sorte de bagage, de la matière. Et on se dit, mais c'est super, en fait, Maubeuge. Oui, c'est pas la grande place de Lille, mais en fait, on s'ennuie pas. Et moi, je me suis jamais ennuyé dans toutes ces villes.
En fait, vous faites un peu l'éloge de la lenteur. Il faut prendre son temps quand on est dans n'importe où, d'ailleurs, quand on est n'importe où. Il faut réussir à prendre son temps. Et puis surtout, être curieux.
Oui, c'est vraiment la curiosité. Et changer de regard, vraiment se mettre à la mesure des lieux où on se trouve. Il ne faut pas évidemment attendre monts et merveilles d'une ville comme Vierzon. Mais voilà, il y a des choses à voir, des rencontres à faire. Et il faut juste accepter de se mettre au bout de la ville. Et là, il se passe des choses.
À Vesoul, vous visitez les abattoirs.
Oui.
C'est une expérience assez traumatisante, je pense.
En fait, il y avait que ça à faire ce jour-là. L'office de tourisme m'a proposé une seule visite, c'était la visite des abattoirs de cochons. Et je me suis retrouvé avec un groupe de retraités en blouse et en charlotte sur la tête à visiter des abattoirs qui étaient vides. En plus, il n'y avait même pas les cochons abattus. C'était donc une visite assez surréaliste. Mais là encore, il fallait presque le prendre au second degré, quoi, cette visite.
Ce que vous faites d'ailleurs, il y a pas mal d'humour et de recul aussi hein, dans ce livre.
Qui est drôle en fait, parce qu'il n'y a pas de...
Tour de France des villes incomprises.
Ouais.
Et vous visitez les abattoirs, mais vous rencontrez aussi une formidable programmatrice d'un festival de cinéma asiatique.
Oui, c'est vrai. Il y a un festival très connu là-bas à Vesoul. Et la programmatrice est une star en Corée du Sud. Il y a le festival de Busan qui est... Et là-bas, on lui déroule le tapis rouge. En France, c'est pas encore assez connu, mais toutes les stars du cinéma asiatique débarquent, c'est en hiver, je crois, à Vesoul pour présenter leurs films. Et j'aime bien ce télescopage d'une star kirghize ou ouzbek ou coréenne qui se retrouve dans cette petite ville qui a été chantée par Brel. Il y est passé.
Il a aimé une femme.
Je sais pas s'il l'a aimé. Il aurait eu une aventure avec une bonne d'un hôtel, enfin la femme de chambre plutôt d'un hôtel où je suis allé.
Et à qui il dit « je t'écrirai une chanson ».
Oui, il lui aurait promis de... Mais ça, on n'en est pas vraiment sûr.
Alors, j'aime bien cette légende,
si c'en est une. Il y a toujours une guerre entre Vesoul et Vierzon, parce que Vierzon est aussi cité, j'en parle dans le livre. Vesoul aurait dû s'appeler Vierzon, la chanson, oui.
Ah oui,
la chanson. Parce que les premiers mots commencent par Vierzon. Mmh. Et Brel a choisi Vesoul. Et donc, c'est la guerre entre les deux villes pour savoir qui est la plus brélienne.
Est-ce qu'il y a une ville qui vous donne envie dans ces nombreuses villes citées et racontées par Vincent Noyau dans Tour de France des villes incomprises, Dominica?
Saint-Nazaire. Ouais, Saint-Nazaire, vous c'est trop Saint-Nazaire. Proche. Oui. Oui, c'est trop proche de... Moi, je vis à Nantes, donc... Ça m'a surpris que vous preniez Saint-Nazaire. Je ne la voyais pas comme une ville incomprise. Elle souffre d'une réputation, bon, parce qu'elle a été complètement détruite. Mais c'est vrai que moi, je la vois un petit peu différemment, parce que je sais que les choses s'y passent. Alors, bon.
Oui.
Voilà.
Merci Vincent Noyou d'évoquer Tour de France des villes incomprises. Bravo pour ce boulot qui n'est absolument pas moqueur, qui cherche pas non plus à dire uniquement du bien. Vous dites simplement ce que vous avez, enfin simplement c'est certainement difficile, mais ce que vous avez vécu et vous décrivez des choses qui ont pu vous surprendre.
Merci à vous.
On écoute Odetta Hartmann. Vous connaissez cette New-Yorkaise ?
Non, pas du tout.
La voici.
To shiver, and I wanna run to the edge of the earth with you, and I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. You, it's like you got them superpowers. You make me bloom just like a flower, devour me. You, better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. Run to the edge of. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you.
Dominica, on va se retrouver dans un instant pour la suite de votre grand atelier. D'autres invités vont nous rejoindre après les informations. Le plasticien Pierre Hicknaud, dessinateur plasticien, le photographe Bernard Descamps. Et comment présenter Francis Falsetto ?
Alors, je suis ravi de le rencontrer. Ce pourquoi j'avais envie de le rencontrer, c'est je crois, un de ses principaux faits d'armes, c'est d'avoir exhumé des trésors de la musique éthiopienne des années 70 et même et après et avant même, et d'avoir popularisé un trésor via la collection éthiopique et d'avoir œuvré aussi pour que les gens qui avaient produit cette musique et qui étaient encore en vie puissent être rétribués pour leur œuvre.
Et bien à tout de suite dans tout de suite. Votre grand atelier, Dominica. Deux disques cette année, un livre chez Flammarion, Ma vie en morceaux, dans lequel Dominica se raconte chanson après chanson. On commence cette deuxième heure avec vous. Dites-nous quelques mots, parce que vous en parlez dans votre livre, de « Le temps qui passe sans moi ».
C'est une chanson qui m'a été inspirée par une phrase d'un roman d'un ami écrivain qui s'appelle Dominique Fabre. Moi, j'aime beaucoup son écriture. Et à un moment donné, dans son livre, j'ai lu cette phrase qui m'a... Je suis tombé en arrêt et en amour devant cette phrase. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Et je me suis dit, ah, ça, c'est merveilleux. C'était la phrase que je cherchais pour parler de ça, du fait d'être un regard, simplement, et d'observer les choses en s'extrayant de soi-même. Et de faire en sorte que le temps nous foute la paix aussi. Et ne passe plus sur nous. Ça m'a donné la porte d'entrée d'une chanson.
Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. Je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier et ces grues. Au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort, d'images qui saisissent et rendent presque heureux. Souvent, je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort, d'une image à sauver. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Je ne savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie circule. Et même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. À gagner parfois quand le temps vous oublie.
Dominica, vos autres invités sont autour de cette table. C'est un plateau masculin, mais vous aviez aussi invité des femmes. C'était pas possible pour elles à ce moment-là.
Oui, les invitations n'ont pas été honorées.
Voilà,
mais
je tiens à préciser que vous aviez aussi
que
invité...
Que je ne suis pas un affreux sexiste.
Mais pas un affreux sexiste, en tout cas, je ne crois pas. Bernard Descamps, photographe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, monsieur le passeur de musique, notamment de musique éthiopienne, Francis Falsetto.
Bonjour.
Et bienvenue au dessinateur et sculpteur Pierre Igno, c'est ça vos
c'est
fonctions,
ça, oui.
Vos activités.
Bonjour.
Dominica, on a retrouvé une de vos premières interviews sur France Inter, c'est toujours mignon.
Vous voulez m'humilier encore ?
Oui, j'aime bien humilier Dominica, c'est un principe dans la vie. 1992, vous venez donc de sortir la fameuse Fossette et vous passez sur Inter le soir au Pop Club.
Mon Dieu.
Avec José Arthur.
Dominica, vous avez fait un disque ? Vous avez fait ça dans votre cuisine ?
Non, dans ma chambre.
Enfin bon.
J'en ai marre qu'on parle de cuisine.
Oui, vous avez fait ça avec des petits bidules, des moulins à café, des boîtes de conserve.
Ouais.
Et tout le monde en parle comme si vous aviez eu le Cleveland Philharmonique.
Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui bricolent comme ça. Enfin, le terme de bricolage même commence à me casser un peu la nénette.
Mais non, tout vous casse la nénette alors ?
Ouais, je pense que relativement.
Beaucoup de choses vous
beaucoup
cassent
la nénette. Beaucoup de choses me cassent la nénette. Moi, je m'évertue avant tout à faire des chansons, quoi.
Et votre inspiration, alors, quand on dit qu'elle est triste, qu'elle n'est pas spécialement gay, qu'elle est nostalgique, qu'elle donne dans le naïf et le paupérisme, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?
La mélancolie et tout. Bon, bah, ça vient comme ça, quoi. Je veux dire, quand je compose, c'est un machin qui remonte, là, c'est une espèce de fange. Puis j'essaie de rendre la fange très aimable, mais au sens premier du terme, quoi.
Pour avoir l'âge que vous avez un visage d'adolescent prolongé.
Attardé.
Non, pas attardé, oui, j'étais gentil. c'est ça, non, un petit côté Rimbaud avant l'accident.
Ouais.
Et est-ce que vous avez beaucoup souffert ? Est-ce que vous avez galéré terriblement ?
Non.
Est-ce que vous avez été battu par une grand-mère poilue ?
Non, ou... pas du tout. Ça vient comme ça, quoi. Mais bon, je pense pas engendrer spécialement dans la vie de la mélancolie, quoi. Mais bon, bah, sur le disque, bah, c'est triste à mourir, quoi. J'y peux rien. Ça me dépasse. J'ai pas envie de me faire chier à faire de. De toute façon, j'y arrive pas à faire autre chose.
Bon, Dominique A, merci d'être venu. Et merci. Le disque s'appelle comment
La Fossette.
La Fossette. C'est parce que vous en avez pas ?
Si, justement.
Ah, si, vous en avez deux. Hein.
J'en ai eu
trois.
Une belle. Ah, une belle Fossette.
C'est pas mal, oui. Ah. Il paraît que c'est le bonheur, je sais pas si c'est vrai.
Ah, bah,
vous viendrez me le dire bientôt.
Ouais.
Voilà, José Arthur, qui vous taquine pas mal, hein, Dominique.
On savait causer en ce temps-là.
Oui, vous aviez une certaine agressivité, d'ailleurs, vous saviez répondre.
Oui,
hein.
Ouais, c'est assez étonnant, ouais. J'avais du mordant.
Oui, et déjà, on vous cataloguait, alors que vous n'aviez sorti qu'un disque, comme un chanteur mélancolique, un peu triste, qui fait des chansons dans sa cuisine, disait-on.
Oui, ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'est toujours la chambre, en fait. Hein. Cuisine n'est pour rien dans cette histoire.
Et oui, c'est curieux que...
Aucune cuisine. Ah si, une fois j'ai composé, oui, ça m'est arrivé.
En utilisant les fourchettes et les couteaux, non ?
Non, mais en étant un peu systématiquement assis sur l'évier pour composer.
Vous écrivez, vous composez, vous interprétez, vous allez de scène en scène, de ville en ville. Et puis, de plus en plus, vous avez envie de rencontres. Et de rencontres avec des publics qui ne soient pas forcément toujours les mêmes. Mmh. De gens qui ont l'habitude d'aller dans des lieux de culture. Et vous faites partie depuis un an, deux ans, peut-être même un petit peu plus.
Alors, oui, de plus de deux ans maintenant. Ouais.
D'associations, d'un collectif qui vous permettent d'aller vers des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au spectacle.
Ouais. À la base, c'est un collectif d'artistes et puis c'est aussi un collectif de citoyens dans lequel pas mal de gens s'investissent. Donc c'est un collectif qui s'appelle Des Liens. On s'est vu récemment parce qu'on est sur plusieurs villes. On est sur Rouen, sur Bordeaux, sur Paris, sur Nantes. Au départ, l'idée c'était tout simplement d'ouvrir les salles dans lesquelles on joue à des publics qui sont pas habitués à venir dans ces lieux-là, qui n'ont pas les moyens, qui sont souvent des gens qui sont encadrés, accompagnés par les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales. Et puis on se rend compte finalement qu'aujourd'hui ça ouvre sur d'autres choses, c'est pas seulement donner des places de concert et permettre à des gens de venir au concert, c'est aussi aller dans les lieux, rencontrer les gens et simplement d'échanger en fait. Les buts sont beaucoup moins clairs. Je trouve aujourd'hui qu'avant, c'est plus passionnant, c'est un truc d'échange et de rencontre. En fait.
Vous avez évoqué les travailleurs sociaux, il y en a une que vous avez souhaité qu'on rencontre ensemble quand je suis venu vous voir à Nantes pour l'émission. Elle s'appelle Emmanuelle Billy, en quelques mots, on va l'écouter, mais en quelques mots, c'est qui Emmanuelle Billy ?
Emmanuelle Billy, c'est une travailleuse sociale donc, qui travaillait, elle n'y travaille plus, au restaurant social Pierre Landais à Nantes, qui est un lieu où je me suis rendu plusieurs fois et où vraiment j'ai été... sensibiliser à toutes les problématiques liées justement à l'accès à la culture et surtout où j'ai été conforté dans l'idée que j'avais à mon échelle hein, un petit rôle à jouer.
C'est Emmanuelle Billy qui la raconte.
Voilà.
Pourquoi je m'adresse à lui ? Parce qu'on s'était déjà rencontrés, qu'on partage des valeurs communes. Il y a de la générosité, il y a vraiment cette envie en fait de se mettre au service d'eux. C'est quelqu'un de très modeste, donc qui va être là avec beaucoup de simplicité, notamment avec les premiers ateliers d'écriture, où là, moi, j'ai été étonnée de voir des personnes, en fait, qui se sont posées à la table et qui ont commencé à écrire dans leur coin. Et ça les a tellement inspirées qu'ils ont écrit aussi dans la rue, dans le tramway, je m'en rappelle, sur les chemins, pour venir, en fait, jusqu'à l'atelier. Et jusqu'au moment où, au studio, parce qu'on a enregistré, en fait, les textes, ou au studio où on a eu, Dominique a pu permettre, enfin, je pense, un climat de confiance et aussi de stimulation de la créativité qui fait, en fait, que les gens ont été étonnants.
Et j'ai été surpris par la façon dont certains investissaient vraiment la musique, en quelque sorte, et posaient leur voix. Sans inhibition et avec beaucoup de naturel. Moi, je suis pas du tout pédagogue, donc je ne les orientais pas et je ne corrigeais rien.
Moi, ce que je retiens, c'est que tu es vraiment dans un accueil, en fait. Des fois, on pourrait s'imaginer, voilà, que l'artiste va prendre toute la place. Et en fait, là, pas du tout. Et c'est vraiment dans l'idée de l'échange, en fait, de l'interaction, d'un libre-échange que tu te présentes, en fait, aux gens.
Quand je suis arrivé à Pierre-Landé, mon logement venait de brûler. Ce jour-là, j'ai tout perdu. Mes souvenirs, mon vécu. Au début, je venais juste pour y manger. Je disais rien, je me taisais. Puis j'ai rencontré l'équipe et André qui m'ont dit hey, assieds-toi, faut qu'on discute. On voit bien que ça ne va pas, que le moral est au plus bas. T'as à peine touché ton repas à croire que les mots ne se décrochent pas. Alors je les ai écoutés et j'ai commencé à faire des activités. Je reviendrai avec de la joie de vivre à vous partager.
C'était pas seulement le fait que ce soit fort, cette séance d'enregistrement, c'était aussi, pour moi, c'était aussi libérateur que pour eux.
Votre engagement est assez récent. Longtemps, Dominica, vous avez dit que le fait de chanter, d'écrire, d'être auteur, compositeur, interprète, c'était s'intéresser à la poésie et que l'art ne devait pas aller du côté du réel. Vous aviez ce discours-là et puis cette pratique-là de la chanson. Et puis progressivement, on a senti que le réel rentrait dans votre vie. Et là, vous diriez que ça répond à quel besoin, le fait de faire des ateliers, le fait de vous occuper des concerts accessibles à tous.
Je me targuais d'être un artiste dégagé. Enfin, c'était une formule que j'avais. Et après, bon, moi, j'ai toujours eu une conscience politique aussi, mais que je mettais un petit peu sous le tapis. Une colère aussi, que je n'exprimais pas. Et puis, c'est ressorti.
Comment vous faites pour amener ce qu'on appelle les précaires, le mot n'est pas joli, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des places, à vos concerts, par exemple? Qu'est-ce que vous avez eu comme initiative?
Et ça, ça a été le premier truc que j'ai appris. Offrir une place, c'est bien, mais il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à aller au spectacle. Donc il faut les convaincre qu'ils ont toute leur place dans une salle de spectacle. Il faut leur donner l'envie, que ce soit pas... Et puis aller au spectacle, c'est aussi une façon pour la personne tout simplement de sortir, de se mettre en valeur aussi. C'est important de se distraire quand on est confronté à des problèmes au jour le jour, des problèmes de logement, d'alimentation, d'habillement, de s'abstraire de ça, de s'abstraire du concret pour s'élever autrement et puis pour partager des choses avec les gens, tout simplement.
J'ai des personnes en fait qui à un moment donné, par exemple, ont décidé qu'ils étaient sans domicile, qu'ils faisaient le 115 et qui à un moment donné ont dit mais non, ce soir en fait je n'irai pas dormir au 115 parce que j'ai une place de spectacle, parce qu'on m'en a donné une et je vais y aller. Et c'est ça la priorité, parce que si jamais me faire du bien, ok, je vais dormir dehors. Mais en fait, là, j'en ai besoin.
Parmi les hommes et les femmes que vous avez rencontrés, avec qui vous avez discuté, que vous avez fait travailler, est-ce qu'il vous est venu des idées de chansons?
Oui, j'ai fait une chanson qui s'appelle La pauvreté et qui n'est vraiment pas la meilleure. Bon, qui n'est pas inintéressante, que je vais la faire figurer sur un disque un petit peu inédit et tout, mais je pense que ça irrigue la création de façon vraiment détournée ou souterraine, ce qui fait que peut-être je vais avoir moins d'appréhension ou moins de réticence à aborder des sujets. Je pense qu'aujourd'hui le champ finalement que je m'autorise est plus large, le champ créatif par rapport au thème abordé, et ne pas craindre justement d'aller sur des terrains un petit peu.
Ça fait quelques années maintenant que vous avez introduit un peu l'écologie par exemple.
Oui. Et je pense que c'est justement c'est le fait d'avoir rencontré ces personnes-là, travailler avec des gens comme Emmanuel, et puis d'avoir fait ces ateliers d'écriture, qui va me faire me sentir aussi plus légitime dans le fait de finalement, au bout d'un moment, délivrer un regard sur les choses.
Je disais dans l'interview avec Emmanuel Billy et avec vous, Dominica, que c'est vrai que votre inspiration aujourd'hui touche aussi à la citoyenneté, à l'écologie, davantage en tout cas qu'avant.
Davantage, pas systématiquement.
Vous avez souvent parlé de la nature, mais là vous dites attention, elle est en danger, faites un peu attention à la terre, par exemple.
Alors c'est pas un langage, disons que c'est...
Vous le dites mieux.
Non, mais c'est dans l'air du temps. J'ai l'impression, dans ces cas-là, évidemment, c'est pas la sensation de délivrer des vérités... très original, mais d'apporter ma voix au chapitre et de contribuer à.
Après, alors quand c'est Dominica qui prend la plume pour dire ce genre de choses, ça donne par exemple dans Toute l'attitude sortie en mars une chanson magnifique qui s'appelle Se décentrer. Pourriez-vous nous la lire déjà?
Alors c'est compliqué de lire une chanson.
Ben oui.
Ça l'aplatit.
C'est votre exercice.
Vous avez conscience de ça.
Ça l'aplatit. On va essayer?
On essaye. Comme il est désormais admis que la Terre n'est pas au centre de l'univers, il serait bon de reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la Terre. Se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffer, se décentrer, se replacer, entendre la mer respirer, les animaux ne plus hurler. Il serait bon d'être des hommes, non pas des gosses dérégulés,
de ne pas nuire à volonté. La terre a le souffle coupé, médusé, ébahie par tant d'arrogance, à deux doigts de laisser tomber, se décentrer, se replacer. Laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffer, se décentrer, se replacer. Descendre du piédestal, ne plus torturer l'animal.
Comme il est désormais admis que la terre n'est pas au centre de l'univers, il serait bon de reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la terre. Se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffer, se décentrer, se replacer, entendre la mer respirer, les animaux ne plus hurler. La terre a le souffle coupé, médusé, ébahie par tant d'arrogance, à deux doigts de laisser tomber, se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffer, se décentrer, se replacer, descendre du piédestal. Ne plus torturer l'animal, se décentrer.
Se décentrer, une des chansons du disque de Dominica paru en mars dernier, Toute latitude. Mmh. En face de vous, Francis Falsetto, l'homme qui nous a fait connaître le son d'Addis Abeba, le spécialiste de la musique éthiopienne. J'essaie de vous situer dans les années 80, vous avez une trentaine d'années, vous êtes programmateur de musique du monde à Poitiers. Comment le son de l'Éthiopie et de la musique éthiopienne vous parvient aux oreilles?
Le hasard est aussi l'amour de la musique, hein. On était une bande de music lovers assez fous. Et un de nos amis avait fait une tournée en Afrique avec une compagnie de théâtre. Et c'était produit à travers les principales capitales, dans les alliances françaises, les centres culturels français. Et Addis Ababa, il avait acheté par hasard, probablement parce qu'il y avait un haut-parleur sur la rue, devant un disquaire, un music shop, un album de Mahmoud Ahmed et Remela Mela. Et c'est devenu un peu... un hymne fétiche pour nous. Dès qu'on a entendu ça, on s'est dit, mais c'est formidable, qu'est-ce que c'est? On comprenait rien aussi, parce que la pochette de disque, c'est pas écrit en anglais, quoi. C'est écrit dans une langue cabalistique pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc, on a très vite décidé de faire des cassettes, à l'époque, c'était les cassettes, milieu des années 80, qu'on envoyait à tous nos amis journalistes, radio, journaux, papier. Et par retour du courrier, c'était, mais c'est quoi ce truc-là? Vous avez trouvé ça? Vous en avez d'autres? C'est génial. Mais
qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette musique?
Elle était géniale. C'est-à-dire, on n'avait jamais entendu ça. On était plutôt connaisseurs, assez bons connaisseurs des musiques d'Afrique. Mais celle-ci n'était pas arrivée à nous. Enfin, ça, c'est quelque chose que je décrypterai par la suite. Mais au début, c'est simplement une rencontre avec un son très loin de toutes les grandes influences africaines qu'on connaissait, Nigeria, Mali, Afrique du Sud et quelques autres.
Alors qu'est-ce qu'elle avait de plus?
D'abord, la voix de Mahamoud Ahmed est quelque chose d'extraordinaire. À mon sens, c'est une des plus belles voix d'Afrique avec Youssou N'Dour et quelques autres, mais pas tant que ça. Et aussi des mélodies magnifiques et des arrangements très sophistiqués, compliqués et en même temps groovy, beaucoup de cuivre. Tout ça fait que on a décidé tout de suite, très vite, compte tenu du peu qu'on avait appris entre un seul disque et les informations des gens un peu plus avertis que nous, on s'est dit on va inviter ce type-là. Et donc en avril 85, mes amis m'ont envoyé à Addis Abeba pour ramener Mahamoud Ahmed, Moulatou Astadke, il y a un orchestre.
Vous les ramenez facilement?
Ils sont jamais venus.
Aïe. Surtout.
C'est-à-dire que moi-même, je n'étais jamais allé en Afrique. Je vais pour une semaine en Éthiopie, alors que je sais aujourd'hui qu'on ne peut rien faire à moins de 3 semaines. La temporalité est tellement différente. C'est un autre monde. Et aussi, je tombe au milieu d'une dictature militaro-stalinienne avec couvre-feu depuis 15 ans, 20
ans. Début des années 80, oui.
Voilà. Donc, vie nocturne écrabouillée, rencontre et interview des artistes très difficultueux, flicage partout, fouille au corps partout, vraiment très difficile. Je le fais court, ça a été un four complet. On a monté une tournée d'une douzaine de dates en France, donc non. Pas question. Mais c'était une époque aussi où c'était le début des radios libres. C'était l'ère Mitterrand, le milieu des années 80. Et donc, on a commencé à faire circuler des cassettes. Et dès l'année suivante, le Festival de Saint-Denis et le Festival d'Avignon, c'est quand même pas tout à fait rien pour nous autres qui étions une association 1901, un petit peu d'activistes, un peu branleurs, un peu pas facile à vivre, ont dit, on voudrait avoir Mahamoud Ahmed au festival. Et donc, ils m'ont renvoyé en Éthiopie en 86, et c'était encore un four complet.
Mais ils sont venus un jour.
Et ils sont venus quelques années après, quoi. L'idée de la collection m'est venue dès ce moment-là, dès 86, mais j'ai dû attendre plus de 10 ans que ce régime tombe, que je retrouve le producteur aux États-Unis.
Aujourd'hui, vous avez plus de 20 ans de collection éthiopique.
Oui, ça vient juste de passer les 20 ans, puisque le premier volume est paru en 97. Bien sûr, il y a quelques enregistrements contemporains, mais c'est principalement des archives.
Des archives, oui.
Absolument.
Des archives qui vous passionnent, Dominica? Vous teniez à la présence de Francis Falsetto?
Oui, ben, je pense que j'ai ressenti en écoutant, c'était le volume 4 d'Éthiopique, de la collection, ce que vous avez peut-être ressenti en écoutant cette musique pour la première fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? D'où ça vient? Quels croisements ont permis cette musique?
Absolument.
En fait, ça a fasciné des tas de gens. Enfin, je pense qu'on est toujours en recherche de sons nouveaux ou de. Mais là, c'était pas seulement un son, c'était même harmoniquement, c'était des choses qui nous semblaient empruntées à des choses complètement disparates, que ce soit la musique arabe, que ce soit le funk. Donc voilà, je pense que ce que j'ai ressenti et que plein de gens ont ressenti en découvrant votre collection, c'est ce que vous avez éprouvé vous-même.
Et curieusement, les influences sont davantage extra-africaines qu'africaines.
Ouais.
Ils ont été complètement sonnés par le rock'n'roll, le rhythm and blues, la soul music, et ça a donné des mélanges absolument uniques en Afrique. Ouais. Je veux dire, ça ne ressemble pas aux influences latines du jeune Youssou N'Dour, ni au groove de Fela, ni à celui aux grands orchestres d'Afrique du Sud, ni vocalement à ce que le Mali a produit. Ouais. Enfin, l'Afrique est un pays producteur de musique absolument extraordinaire. Celle-ci est sûrement une des dernières à avoir rejoint nos manches disques. Ça tient beaucoup à l'histoire de ce pays. Il faut savoir, parce que tout le monde ne le sait pas encore, c'est un pays qui a qui n'a jamais été colonisé. Il a été occupé 5 ans par l'Italie mussolinienne dans les années, à la fin des années 30. Mais c'est peu de choses pour une civilisation, une culture qui réclame 3 millénaires d'existence. Enfin, le fait de ne pas avoir été colonisé, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu de haut-parleurs métropolitains. Tout le reste de l'Afrique était colonisé par les Français, les Anglais, les Belges, les Portugais. Vous pouviez trouver dans ces capitales, non pas la discographie complète des productions locales, mais ça arrivait un petit peu. L'Éthiopie n'a pas de répondant métropolitain en France, comme
Bernard Descamps, vous connaissez bien l'Afrique, il y a beaucoup d'images africaines dans votre travail de photographe depuis les années 80. Est-ce que vous êtes passé en Éthiopie? Est-ce que
c'est... Je suis passé une fois, mais rapidement en Éthiopie.
Ça n'est pas le pays,
je dois dire que je ne connais pas assez ce pays.
Connaissez mieux le Mali, vous.
L'Afrique de l'Ouest, oui, ou l'Afrique centrale.
Surtout. Ce sont des hauts plateaux verdoyants qui sont tout à fait à l'opposé des clichés abominables.
Géographiquement,
Addis Abeba, c'est 2500 mètres d'altitude.
Oui, c'est ça. Oui, c'est géographiquement, c'est très différent. Les populations n'ont rien à voir. Il faudrait que j'y retourne.
Francis Falsetto vous prend dans ses valises la prochaine fois.
Avec plaisir.
Je voudrais quand même qu'on écoute ce choc qui a été le vôtre au début des années 80. Francis Falsetto, c'est Mahmoud Ahmed. Comment s'appelle le titre qu'on va écouter?
Atawurulin Leila.
Ça veut dire quelque chose?
Oui, ça veut dire quelque chose.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Asrayt tibar ganyna lesh kage La tek manyori jala tazali kenyi Ahu kagere dana kotwa kodani Bitera tasewa yale chiruki Minti teke ma lech ni sima kiki Ata uruli lela kiswa zina bker
Dominika, comment vous parleriez du son qu'on vient d'entendre, ce son éthiopien?
À chaque fois que j'entends ce son-là, je me dis, mais comment on fait cette musique-là, en fait? Et avec Francis Falsetto, en tête, nous parlions des conditions d'enregistrement et il me disait que c'était de l'enregistrement mono fait sur du deux pistes, quoi. C'est-à-dire sans possibilité de retoucher quoi que ce soit.
C'est impensable quand
et
on entend ça.
Même pas de vrai studio, à vrai dire. Quelquefois, ils pouvaient utiliser le studio de la radio de manière plus ou moins clandestine, la radio nationale, ou d'une radio protestante. Mais souvent, c'était dans des clubs avec un matériel extrêmement élémentaire.
Dominika, j'ai un livre d'images, un livre de photos de Bernard Descamps, même de vos invités, qui s'intitule « Où sont passés nos rêves ?» édité chez Filigrane, et je m'aperçois que la préface est signée Dominique A. Est-ce qu'il y a un lien?
Il y a un petit lien, ouais. Mais c'est par le biais de cette demande qui m'a été faite par Bernard et par les éditions. Je sais plus qui, en fait, exactement, si c'était...
Moi, je me suis pas dégonflé.
Vous vouliez Dominique A.
Je t'ai écrit.
Bernard Descamps.
Je connaissais pas bien Dominique A. Un peu, parce qu'il était voisin d'un ami belge, hein, voisin de Alain Dogue.
Oui, parce qu'il a vécu longtemps à Bruxelles.
Voilà. Ouais. Et on s'était rencontrés vite fait à Bruxelles, d'ailleurs.
Qui est galeriste à Bruxelles.
Et j'avais entendu ce chanteur qui, un jour, chantait « Rendez-nous la lumière ». Je me suis dit, quand même, les rapports à la photographie me paraissent évidents. « Rendez-nous les couleurs », même si moi, je suis en noir et blanc. Donc, jamais fait-il cette première fois. Puis après, j'ai entendu des chansons qui m'ont beaucoup plu. Et puis, un album qui est toujours mon préféré, Eleor, qui est vraiment un album extraordinaire. Et je lui ai écrit en lui disant, il me semble que nous avons quelques points communs. Et je lui ai envoyé la maquette de ce livre.
Et qu'est-ce que vous avez vu comme image ? Qu'est-ce que ça a provoqué en vous, Dominica ?
En fait, j'aime avant tout quand je comprends pas les choses, en fait, quand je comprends pas comment on fait.
Ça nous fait ça aussi avec certaines de vos chansons, vous
savez. Oui, oui, je sais, et je comprends pas pourquoi on me le reproche. J'aime être troublé, en fait, d'être face à du mystère, quoi.
Oui, parce qu'il y a du mystère dans ces images. Tout n'est pas cadré sur le visage, par exemple. Il y a des fragments, il y a du mouvement.
Ce que j'aime parmi toutes les belles personnes qui sont autour de cette table, dans leur travail respectif, que ce soit en tant que curateur ou artiste, c'est des travaux qui sont, et des démarches qui sont traversées par des fantômes, par du mystère. Et moi, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Et donc, par le biais de, enfin, le mystère permet la poésie, tout simplement, qui est le Graal. Donc voilà, c'est ce qui m'a touché dans le travail de Bernard, que je ne connaissais pas.
J'ai sous les yeux, par exemple, une mariée qui parle à quelqu'un qui est sur un trottoir. La mariée, on ne voit pas son visage, Bernard Descamps. Mmh. On voit juste la robe et on devine une conversation qu'on peut peut-être nous imaginer, d'ailleurs.
Oui, mais c'est fait pour ça. C'est quand Dominique dit, écrit dans le texte là, que toute œuvre doit tendre à la poésie, toute œuvre doit tendre au poème, là je suis totalement d'accord. Mmh. C'est-à-dire que, et il le fait dans ses chansons, et c'est vrai qu'on a des points communs à ce niveau-là. Moi je le fais à partir de la réalité, qui est ma matière première, et j'attends ces instants où les choses basculent, deviennent fragiles, peuvent aller à gauche ou à droite, on ne sait pas. Et ces instants de fragilité, de temps, bah, c'est des portes qui s'ouvrent vers la poésie, par exemple. Mmh.
Vous aimez bien, quand vous êtes en Afrique, par exemple, un peu de vent dans un drapé, c'est très beau, ça.
Oui, ah bah, l'élégance des Africains devrait nous servir de modèle chaque jour. Un type s'appuie contre un arbre, c'est beau. Et c'est vrai que le vent dans ce tissu, je vois quelle photo vous pensez, c'était génial. Ce type est un berger peul, et je lui faisais signe, comme ça, de ne pas bouger. Le temps de faire trois photos, ce qui a été fait. Oui, voilà.
Et pourtant,
voilà.
On a l'impression qu'il y a du mouvement sur l'image.
Oui, alors ça aussi, Dominique en parle dans le texte, que j'ai relu quand même bien là.
Moi aussi.
Il dit que c'est un des paradoxes de la photographie qui fige les choses, mais qui en même temps parle vraiment de la mobilité, du mouvement. Et je pense qu'en figeant les choses, on parle de tout ce qui est... au-delà de l'instant arrêté.
Ouais. Eric Nau, vous aimez aussi, vous suggérez. On a par exemple cet homme qui porte un oiseau sur un doigt, un de ses doigts, mais il est masqué. Mmh. C'est-à-dire que je peux imaginer des choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un otage d'un autre ? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue ? Est-ce que... Là, il y a du mystère, comme souvent sur vos images.
Tout à fait. Ouais.
Dans vos dessins.
C'est vrai que c'est ce qui m'intéresse aussi dans le destin, dans le dessin, pardon. C'est créer du mystère. De l'étrangeté. Moi, il y a toujours, depuis je dessine, la présence humaine, et cette présence humaine, cet humain-là, soit je lui fais subir des hybridations, des métamorphoses. La photographie, je me sens assez proche aussi, bizarrement, parce qu'il y a dans mes dessins une recherche aussi de l'apparition. Je travaille par couches de vernis.
Vous superposez des choses.
Je superpose, et progressivement, l'image apparaît... un petit peu comme dans le principe de la photo argentique. Plaque photographique dans le travail. Enfin, je dis,
c'est, reprends-moi, tout à fait, ouais,
dans le travail de Pierrick. Et moi, qui me touche, c'est le trait est magnifique. C'est très fin et c'est très mystérieux, en fait. Ouais, avec Pierrick, on se connaît depuis très longtemps.
On se connaît depuis 89.
Ouais, tout en s'étant perdu de vue pendant des décennies aussi. Parce que,
mon ami Nantais.
Voilà, ouais. Il était aux Beaux-Arts de Nantes. Moi, je frayais avec les Beaux-Arts d'eux. À cette époque, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisaient les gens que je fréquentais. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le travail de Pierrick, je l'ai découvert comme celui d'un inconnu, en fait. Mm. Et j'ai été vraiment, vraiment bluffé par la qualité de ce travail-là.
Quand on vous dit un dessin de Pierrick Nau, à quoi vous pensez ? Qu'est-ce qui vous vient immédiatement ?
Je pense à ce masque, ces masses noires qui sont posées sur les visages et qui donnent aux personnages des allures de fantômes et de personnages hybrides. Voilà, je pense à ça, je pense à ce trait en fait. Alors c'est difficile de parler d'un trait et d'image à la radio, mais...
C'est possible, tout est possible à la radio. On peut décrire des choses sans trop déflorer. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut hein, quand on fait une photo et qu'on est Bernard Descamps. On ne déflore pas tout, on détourne, on contourne.
Oui. trouver un équilibre où les choses ne sont plus vraiment comme elles devraient être. Ce qui prête à l'imaginaire, et à... c'est fait pour ça, je pense.
Si je vous avais interviewé Bernard Descamps à la fin des années 70, début des années 80, je vous aurais vu avec une blouse blanche, vous étiez chercheur ?
Oui, mais dans la tête déjà beaucoup photographe.
Et qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous plongez dans la photo ?
Il y a deux manières de voir le monde. Il y a celle du scientifique qui est de prendre un sujet et de l'approfondir toute sa vie. Donc ce que j'appellerais vertical. Et puis il y a celle du photographe. Qui finalement, il n'approfondit rien, mais il connaît 10 000 choses. Donc c'est plutôt horizontal. C'était ça plutôt que une chose verticale. Je préférerais 1 000 choses horizontales.
Je sais pas vous si diriez vous la même chose des artistes, Pierre-Ecno Dominica?
Ouais, moi je suis assez horizontal comme garçon. Donc je souscris.
Moi aussi. Et tout ce qui est de l'ordre de l'obsession, est-ce que votre art est une forme d'obsession?
Je sais pas. En tout cas, le dessin, c'est... Il y a quelque chose de l'obsession. Je dessine tous les jours. Le dessin m'aide à poser un regard sur le monde, l'étrangeté du monde. C'est-à-dire comment ça tourne, comment j'ai besoin de cette pratique journalière pour mon équilibre aussi.
Vous sembliez dire tout à l'heure, Pierre Ecno, que quand vous commencez un dessin, vous savez pas exactement où votre main va vous emmener.
Non, et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que il y a une idée, vague, mais et progressivement le dessin apparaît. J'utilise aussi beaucoup de banques d'images, de photographies, de choses que je collecte, qui m'aident après à composer, à assembler progressivement le dessin arrive.
C'est peut-être la même chose quand on écrit une chanson, d'ailleurs. Il y a peut-être une phrase au départ.
Tout à fait. On va à la rencontre de son travail, et c'est l'intérêt, de la chose, c'est avoir un point de départ, une vague idée qui va à un moment donné se structurer.
Et comment on sait que la chanson est terminée?
Ça passe par la sensation physique au mot, et quand le texte doit être corrigé, c'est parce que la bouche, ça heurte. Il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau des maxillaires. Et donc il faut corriger ça. Le mot s'adapte. Et alors je parle beaucoup du mot, parce que c'est vrai que c'est le point de départ pour moi. C'est pas la difficulté, la musique, c'est le mot.
On a beaucoup parlé de rencontres dans votre grand atelier. On entendait tout à l'heure un duo que vous faisiez dans les années 90 avec Philippe Catherine et vos petites voix aiguës de post-adolescent, Dominica. Mais régulièrement, d'abord vous écrivez pour d'autres. Il y a des chansons que chante Calogero qui sont signées Dominica. Des textes seulement. Oui. Il met la musique lui-même, c'est ça?
Oui, oui.
C'est des ou une chanson d'ailleurs?
Il y a eu plusieurs. Il y en a eu 5 même.
Et de temps en temps, il y a des duos. Dominica a pu chanter avec Barbara Carlotti. Il y a aussi Étienne Dao.
Tout à fait.
Ça s'est fait comment?
Ça s'est fait à l'issue d'un concert qui était en hommage à Jacques No, en 2011, il me semble, qui avait lieu à la Cité de la Musique à Paris. Et en fait, avec Étienne Dao, on sait pas qu'on s'était raté, mais on s'était jamais croisé. Alors que bon, l'Hexagone, c'est pas si grand, et puis finalement, on avait plein de connaissances en commun. Et c'était un moment où je pense que on avait envie de se croiser aussi. et à l'issue de ce concert, on a discuté, bien sûr, on a fait un peu connaissance comme ça, et il était en train de travailler sur son album à venir, qui serait les chansons de l'innocence retrouvée, et il m'a proposé de lui proposer des choses, des chansons. Donc moi j'étais déjà ébahi parce que ça intervenait rapidement après notre rencontre, et puis parce que il incarne tellement de choses, et il a fait partie de ma formation musicale.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, je me voulais léger, léger. Du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais l'astre et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber. Aux spleen et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace, Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface.
Mais elle tient toujours cette chanson, Dominica.
Oui, là, c'est une version, en fait, c'est pas la version de l'album, c'est une version qu'on a fait après, en duo, pour marquer le coup.
Dans le bouquin, vous racontez aussi un souvenir moins heureux, c'est Bachoum qui a failli chanter des Dominica, puis ça s'est pas fait.
Il l'a fait, mais c'est pas sorti, mais là, ça va sortir. Donc, il va y avoir un disque très prochainement d'Alain Bachoum, avec des inédits, et là, je suis ravi, parce que Immortel figure.
Heureux alors.
10 ans plus tard.
C'est vrai qu'Immortel que vous chantez sur scène et que vous avez enregistré était prévu pour Alain Bachoum. Je vais remercier Pierre Hicknau d'être venu, dessinateur, sculpteur et chanteur, musicien, ça je le découvre aujourd'hui. Votre livre Sous les paupières, un sillage est paru chez Filigrane, ainsi que le livre de Bernard Descamps. Merci Monsieur Descamps. Où sont passés nos rêves? Ça pourrait être le titre d'une chanson de Dominica. Et merci aux passeurs de musique éthiopienne, entre autres de musique du monde en général. Francis Falsetto, je voudrais qu'on se quitte sur une de vos phrases du livre, très beau livre, Ma vie en morceaux, Dominique Anet. D'ailleurs, il n'est pas signé Dominicain, mais il est signé de votre vrai nom. Pourquoi d'ailleurs Dominique Anet?
Je sais pas, à partir du moment où j'écris en prose, je reprends ma vraie enveloppe.
Votre identité première. Vous racontez au tout début le jeune Dominica qui arrive à Nantes, donc celui qui écrit déjà de la musique, mais qui n'est pas encore connu. Et vous dites, tandis que je vivais, je pensais ne pas vivre, que la vie m'attendait. À quoi vous pensez quand vous dites ça?
Que tout était en suspens, mais je pense que c'est le propre de tout adolescent. On est dans une attente, tout simplement, et qu'il y avait un petit point à l'horizon. Je me disais, ma vie, elle est là-bas.
Et aujourd'hui, un peu par rapport à ce point, elle est où?
Elle est pleinement là, je crois. Enfin, j'ai l'impression d'être dans ma vie totalement immergée dans un bain... total. Je ne cours plus après.
Je vous souhaite une bonne tournée.
Je vous remercie.
Puis une bonne retraite de 2-3 ans maximum, d'accord?
D'accord.